Louis.
Chaque semaine, nous pénétrons dans la jungle des émotions. Nous pensons, nous décortiquons, nous analysons, mais surtout, nous ressentons. Et comme tout ce qui nous traverse passe par notre cerveau, mais aussi par notre corps, dans cette mini-série, nous allons voyager au cœur de nos cinq sens et de nos émotions. Dans ce troisième épisode, de l'harmonie, du soleil qui entre par une fenêtre, des silences. Pour découvrir en musique les multiples connexions entre l'ouïe et les émotions. Dans « Corps et âme », publié en 1993, l'auteur américain Frank Conroy donne vie au personnage de Claude, un jeune garçon pauvre qui grandit dans un sous-sol miteux à New York. Construit comme un conte moderne, ce grand roman suit le jeune Claude dans sa découverte de la musique, sous la forme d'un petit piano désaccordé pour commencer, puis dans l'apprentissage auprès de professeurs, et enfin dans l'éclatement de son immense talent d'interprète et de compositeur. Frank Conroy écrit « Il inspira profondément, une sorte de soupir, et la musique commença, occupant instantanément tout l'espace, telle une fleur géante s'épanouissant à partir du néant, en une fraction de seconde, pour devenir aussi grande qu'une maison. » Lorsque j'ai lu « Corps et âme », la musique sortait de chaque page, et avec elle, la sensation presque réelle de pouvoir éprouver, comme Claude, le toucher du piano, les notes qui s'envolent, l'émotion pure de la musique, ressentie à travers les doigts de celui qui la joue. La musique et l'émotion de l'interprétation sont si puissamment décrites dans ce roman que sa lecture en devient auditive. Comme si notre ouïe était en éveil plutôt que nos yeux. Comme si notre cœur battait dans nos oreilles. Quelle influence a la musique sur nos émotions? Que ressent-on lorsqu'on écoute de la musique et pourquoi? L'émotion à l'écoute d'un grand morceau de musique est-elle personnelle ou universelle? Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions. Lorsqu'on assiste à un concert de musique, en direct ou en vidéo, on peut parfois être suffisamment proche des musiciens et musiciennes pour voir leurs expressions. Les sourcils qui se froncent, les bouches qui se tendent, les yeux qui s'éclairent. C'est fascinant comme l'interprétation d'une œuvre donne vie à un corps. Sarah Dayan est violoniste et elle n'échappe pas à la règle. Je suis allée l'interviewer chez elle un mercredi matin ensoleillé. Dès qu'on a parlé de musique, elle s'est animée tout entière. Ses yeux qui brillaient, son sourire. C'est comme si tout son corps vibrait rien qu'à l'évocation d'une note, d'un accord, d'une modulation. Pour cet épisode très sonore que je vous recommande d'écouter au casque, installez-vous très confortablement et fermez les yeux. Depuis 16 ans, Sarah est violoniste au sein du quatuor à cordes Voce. Un quatuor à cordes, c'est deux violons, un alto et un violoncelle. Selon les morceaux joués, Sarah est alternativement premier ou deuxième violon. La musique, pour elle, c'est une multitude d'émotions contrastées qui s'enchaînent comme des notes.
Avec la musique, on peut avoir une émotion qui commence, qui dure quelques secondes, et puis grâce à une petite modulation, un petit élément, qu'il soit rythmique ou mélodique ou harmonique, bifurquer vers une toute petite variation de cette émotion, puis vers une émotion totalement différente. En réfléchissant à ce rapport entre l'émotion et l'ouïe, je me dis que la musique, elle a cette force-là de pouvoir nous faire naviguer beaucoup plus rapidement que d'autres formes d'art, dans une émotion mobile, en fait. Et la musique, elle est, comme elle prend en compte le temps qui passe, elle s'appuie sur le temps qui passe, c'est totalement différent, je trouve. C'est la mobilité de la musique, mais aussi du silence intégré à la musique, comme on va aussi l'entendre dans ce mouvement de Beethoven, puisque c'est ces silences qui font que ce qui arrive est si émouvant, je trouve.
Le mouvement dont Sarah parle, c'est l'opus 18, numéro 1, du quatuor à cordes de Beethoven. Sarah m'a proposé qu'on l'écoute ensemble et de me raconter, dans le détail du mouvement, ce qui l'émeut et pourquoi.
Alors, le mouvement commence comme ça. Ce thème est dingue parce qu'il est comme une espèce de souffle ininterrompu de plusieurs mesures. Qui dégage déjà une nostalgie incroyable. Moi, je vais me mettre à pleurer en fait en écoutant ce moment. Donc là, je trouve que le premier thème qu'on vient d'entendre, il était déjà dans une espèce d'intimité et de nostalgie très forte. Là, on le réentend tout de suite par le violoncelle, alors que c'était le premier violon qu'il avait au tout début. On était en mineur pendant toute la première partie de ce qu'on a entendu. Et là, ça y est, on va vers du majeur, donc quelque chose d'un peu plus riant et souriant. Et il y a toujours cette espèce de battement de cœur un petit peu rapide. Et là, d'un seul coup, pour moi, c'est comme s'il y avait, comme si on ouvrait une fenêtre, comme si on ouvrait plutôt un volet et que le soleil pénétrait d'un seul coup dans la pièce. Avec toujours ce petit balancier des croches d'accompagnement. En dessous de la mélodie. Là, il y a des petits dialogues entre alto, deuxième violon et maintenant premier violon pour amener à une nouvelle séquence. Voilà, donc là, c'est le moment où le thème du début est maintenant dit dans une toute autre ambiance. C'est pourtant la même mélodie, elle est dans une autre tonalité, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes notes, mais la nuance, c'est-à-dire que là, c'est le deuxième violon et l'alto qui le jouent. La nuance est forte, alors qu'au début, c'était piano. Et le premier violon fait des espèces de cascades très rapides qui donnent une intensité complètement dingue, je trouve. Et là, c'est la désolation, je trouve, d'un seul coup. Les fameux silences dont je parlais tout à l'heure. Comme s'il n'y avait plus à assez d'énergie pour dire les choses. Et là, on arrive à mon passage préféré du mouvement, avec donc, ce nouveau petit motif exposé par le deuxième violon, qui donne au thème qu'on a entendu dès le début une toute autre couleur. Et là, il y a ces accès de violence qui interrompt complètement le discours. Comme peut faire la douleur devant la mort ou la douleur devant une rupture. Encore une fois, là, je trouve que les silences sont très, très parlants et qu'ils rajoutent à la désolation de ce passage. À nouveau, là, on bifurque vers du majeur. C'est difficile de parler de tout ça en temps et en heure parce que les émotions vont trop vite, mais on retrouve, comme dans la première partie, ce thème qui était très lumineux. Ça, c'est tout à fait typique de ce que fait Beethoven très souvent, c'est-à-dire d'avoir des coups de poing, des moments où les notes sont très attaquées, pour ensuite revenir subitement à quelque chose de beaucoup plus sobre au piano. Les petits dialogues entre chaque instrument, mais dans un esprit très comme un dialogue en bonne compagnie, quoi. Alors là, c'est la dernière apparition de ce thème incroyable, avec comme nouvel élément les deux instruments qui accompagnent, qui ont des valeurs beaucoup plus rapides. Donc ça donne une intensité encore plus forte que les deux fois précédentes, qui étaient déjà dingues. Fait des incursions fortées, très violentes. Donc pour moi, là, c'est vraiment le coup de poignard. Là. C'est vraiment le summum de la violence de ce mouvement. Et puis là, on est vraiment sur la conclusion. On retrouve la désolation, je trouve. Même les deux dernières notes, qui sont espacées d'un silence entre elles, me donne l'impression d'une espèce de dernier souffle du cœur. Quand j'écoute ce mouvement sans le jouer, c'est comme quand on connaît un morceau par cœur et qu'on attend avec impatience le moment crucial, notre moment préféré, là. Selon les versions que j'écoute, je peux avoir plus ou moins d'émotion à ce passage préféré, justement. Le simple fait d'avoir attendu ce moment fait que, de toute façon, je vais avoir une émotion projetée qui aura une intensité différente des quelques minutes qui précèdent. Cette désolation, je trouve que je l'aperçois à la fois quand j'écoute ce mouvement, quand je mets mon disque dans mon salon, quand je suis au concert, mais aussi quand je le joue. C'est-à-dire que quand je joue ce passage, là, je pense à ce moment où le second violon ajoute On est à la fois passeur d'une émotion quand on interprète, mais souvent, à cet endroit-là, moi, je me laisse complètement gagner par l'émotion et j'ai aucune difficulté à accepter de me laisser gagner par cette émotion. C'est-à-dire que je trouve que c'est typiquement un passage où il n'y a aucun danger à être soi-même dans l'émotion et du coup, je me le permets. Lorsque j'écoute un mouvement de musique, d'autant plus s'il y a du violon, mais je peux aussi ressentir une émotion qui serait la projection charnelle du geste que je ferais pour réussir à avoir le son que j'entends. Et enfin, je trouve que c'est une dimension importante du plaisir que j'ai à écouter de la musique, comme si je pouvais ressentir dans mon bras le type de poids, d'intensité que je mettrais, ou la position de l'archet, la position de la main gauche. C'est pas un sentiment, c'est plutôt une émotion physique presque organique.
Venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Un grand merci à Sarah Dayan, violoniste, d'avoir partagé ses émotions musicales. Je tiens aussi à remercier le quatuor Voce ainsi que la maison de disques Naïve. Dans l'épisode de demain, nous nous demanderons pourquoi le toucher est essentiel dans nos rapports humains et dans nos émotions. Maud Benakcha est la chargée de production du podcast. Cet épisode a été réalisé par Marine Kéméré, mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, qui s'est également occupé de l'enregistrement. Nicolas de Gélis a composé le générique d'émotion et la composition musicale a été créée par Marine Kéméré et Nicolas Vert. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Chez Louis Média, nous essayons de mettre en avant la création musicale dans nos podcasts. Chacune de nos musiques est une création originale. Merci à Marine Kéméré, Charles de Cilia, Nicolas Vert, November Ultra, Mélodie Loret, David Stank, Bénédicte Schmitt ou encore Jean Thévenin de donner une troisième voix à nos podcasts. Vous pouvez écouter leurs créations dans Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.